Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Jinune Podcast, le média consacré à l'entrepreneuriat féminin, produit par Jinune Woman. Partons ensemble à la rencontre de ces femmes qui ont osé se lancer et qui nous livrent ici leur parcours et leurs apprentissages. Au programme, une bonne dose d'inspiration et de motivation, mais aussi des conseils pour vous accompagner dans cette fascinante aventure qu'est l'entrepreneuriat. Pour ce nouvel épisode du Jinune Podcast, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Rebecca, Juliana et Virginie. Donc c'est un épisode enregistré spécialement dans le cadre de la Semaine de l'Entrepreneuriat 2020. Bienvenue à vous, merci pour votre participation. On va peut-être commencer par les questions simples, c'est-à-dire les présentations. Rebecca, je te laisse ouvrir le bal.
Merci beaucoup Virginie, c'est super cool de faire ce podcast, surtout en compagnie de Virginie et Juliana. Alors, donc moi je m'appelle Rebecca, j'ai 30 ans, j'habite à Genève depuis un an et demi. J'ai rejoint le réseau Genuine Woman il y a environ 8 mois, lorsque j'ai monté ma société qui s'appelle Malipa F&B Solutions. F&B, c'est Food and Beverage. Donc moi, j'ai fait l'école hôtelière de Lausanne. J'ai un background très hospitality, restauration. C'est ma passion et puis c'est mon métier. Alors, j'ai un peu deux activités avec Malipa. D'un côté, je fais du conseil et de l'accompagnement pour les entrepreneurs qui lancent des projets. Alors, comme par hasard, j'ai que des clientes femmes. Hasard ou pas, je ne sais pas. En tout cas, j'ai 3 clientes femmes. Et de l'autre côté, je représente un logiciel qui s'appelle BevSight et qui permet aux restaurateurs de mieux gérer leurs coûts de revient marchandises. Quelque chose de très technique, très axé restauration. Et donc, au quotidien, je fais pas mal d'activités pour élargir mon réseau, rencontrer du monde, faire un petit peu parler de ce que je fais. Et c'est pour ça que j'ai rejoint le réseau Genuine Woman pour un petit peu rencontrer d'autres entrepreneuses.
Génial, oh, merci beaucoup. Juliana, je te laisse continuer.
Merci beaucoup Virginie. Donc je m'appelle Juliana, j'ai créé banbooking.ch qui est un moteur de recherche en fait pour réserver un service à Genève rapidement et simplement. C'est un moteur de recherche qui va permettre de rechercher un service plutôt qu'un prestataire. Hein, et en fait j'ai eu l'idée de cette application il y a quelques temps, quand je suis devenue maman de jumelles. Et ma vie s'est considérablement compliquée et mon temps s'est considérablement raccourci pour pouvoir organiser des choses, surtout pendant la journée, les heures d'ouverture des magasins et des prestataires. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être une bonne chose de pouvoir réserver en ligne son coiffeur, sa manucure, son garagiste, son plombier. Et ben voilà, comme j'ai eu aussi des enfants, je me suis rendu compte à quel point c'était compliqué de chercher et de trouver des cours pour les enfants à Genève, comme des cours assez simples de bébé nageur ou de musique ou des ateliers divers et variés. En faisant un petit peu le tour et en me renseignant, en parlant auprès des gens, je me suis rendu compte que ce besoin, c'était pas un besoin uniquement personnel, mais qu'il y avait plein de gens en fait qui étaient aussi en demande. Et du point de vue des prestataires, j'ai remarqué qu'ils avaient une autre problématique qui était leur visibilité. Créer un site internet et digitaliser en fait son service, c'est quand même quelque chose d'un petit peu compliqué, même si ça devient de plus en plus abordable. Et donc, je me disais, je pourrais résoudre un problème d'un côté qui serait de pouvoir rechercher un service et de prendre rendez-vous facilement. Et de l'autre côté, je résoudrais aussi un problème au niveau des prestataires pour leur donner une plus grande visibilité et pouvoir remplir leurs heures, soit creuses, soit pas. Voilà.
Super, merci beaucoup. Et Virginie, pour conclure ?
Eh bien, merci Virginie pour ton accueil aujourd'hui. Donc, je m'appelle Virginie, j'ai 39 ans, je suis maman d'un adorable petit lapin. Je suis à la tête de Get Out of the Box Event que j'ai créé il y a une année un peu près, où j'offre la possibilité d'organiser des événements en B2B que je travaille soit directement pour mes clients qui veulent organiser une inauguration, organiser leur fête de fin d'année, du team building, simplement remercier les équipes par des voyages incentives. Tout est possible, tout est envisageable, il suffit juste qu'on en discute, qu'on s'assoie autour d'une table et qu'on voit comment on peut transformer en réalité ce qu'il y a dans votre tête. Et en parallèle de ça, j'écris depuis quelques mois aussi la branche déco, donc Déco by Get Out of the Box. Et là, le but, c'est de chiner, donner une seconde vie aux objets du passé qui dorment dans des placards ou qui risquent de finir à la poubelle. Donc, je les réhabilite, je leur fais une petite beauté, je les relook, je les upcycle. Et en plus, tant que c'est pas vendu, c'est dispo à la location. Donc, pour un shooting photo, pour mettre en avant vos produits, vos créations, n'hésitez pas à regarder ce que vous pouvez louer le temps de ce shooting ou pour un pop-up store. Tout est possible. Donc, l'idée de ces deux activités, c'était aussi d'avoir une dimension un peu plus respectueuse de l'environnement dans la mesure du possible. Donc, voilà.
Génial, merci beaucoup. Je le disais en introduction, donc c'est un épisode qui est enregistré spécialement dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat. Donc, on va parler d'un thème qui est l'adaptabilité ou l'entrepreneuriat, l'art d'être un caméléon. Donc, je voulais vous demander pour vous ce que ça représentait, cette notion d'adaptabilité, parce qu'on dit souvent que c'est une caractéristique indispensable pour un ou une entrepreneur. Qu'est-ce que ça représente pour vous et peut-être comment est-ce que vous l'interprétez pour vos projets respectifs ?
Alors, pour moi, l'adaptabilité, c'est une seconde nature. Moi, je suis donc parisienne à la base. J'ai quitté la France à 18 ans pour faire mes études à Lausanne. Et depuis, j'ai fait que voyager. J'ai vécu en Israël, en Chine, à Shanghai, à Bangkok, un peu en Italie. J'ai pas mal bougé. Et donc, la notion d'adaptation, pour moi, c'est quelque chose que je vis au quotidien. Quand on se retrouve à 23 ans à Shanghai, au milieu de plein de Chinois, et qu'on ne comprend pas la langue, et puis qu'on n'a pas du tout l'éducation en fait, culturelle, on n'a pas d'autre choix que de s'adapter, en fait. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui m'aide au quotidien dans l'entrepreneuriat. Et j'en parlais avec les filles quand on a un peu préparé ce podcast. Moi, le Covid et puis tout le quotidien, en fait, les embûches qui se présentent sur mon chemin, bah, c'est un peu un automatisme que de trouver comment les contourner. Je pense malgré tout qu'on peut devenir plus adaptable et plus flexible. On en parlera peut-être un peu plus après. Mais en tout cas, pour moi, c'est une seconde nature.
Alors, moi, de mon côté, c'est pas du tout une seconde nature. Et je dois dire qu'en fait, j'ai parcouru quand même un long chemin avant d'arriver arriver où j'en suis aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui n'a pas toujours eu très confiance en moi. Et je pense que aussi pour pouvoir s'adapter, il faut aussi être un petit peu sûr de soi. Et sinon, c'est un petit peu compliqué parce que s'adapter, c'est aussi se remettre en question. Et donc, il y a un moment donné où si on se remet en question, ben, il faut être sûr de soi pour pouvoir se remettre en question et pas avoir peur d'une certaine forme d'échec ou d'une certaine forme de jugement, ce qui n'a pas été facile pour moi dès le début. Et c'est vrai que je ne me suis pas vue entrepreneur dès le départ. Ce n'était pas du tout quelque chose que je m'étais vue faire. Je ne pensais pas que j'en étais capable et ça n'avait jamais été vraiment un objectif. Donc c'est tombé un petit peu par hasard et au final, je me suis rendu compte que ça m'avait appris énormément de choses. Et c'est vrai qu'en faisant aussi partie des Genuines et en rejoignant le réseau il y a un an et demi, je me suis rendu compte à quel point on se trompait tout le temps et à quel point on s'adaptait tout le temps, tout autant qu'on était dans le réseau et même en dehors du réseau quand je discute maintenant avec des entrepreneurs que je côtoie. Et du coup, ça m'a permis aussi de réaliser à quel point de s'adapter par rapport à son marché était important pour réussir en tant qu'entrepreneur. Donc en fait, c'est presque une condition sine qua non, si on veut pouvoir réussir un business, d'écouter son marché et de s'adapter en permanence. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui a été quelque chose de très fort. Et aujourd'hui, j'essaye de toujours être à l'écoute et j'ai beaucoup moins aussi d'appréhension à me remettre en question en me disant, ben, c'est pas moi, je vais pas faire une erreur, et même si j'en fais une, en fait, c'est vraiment pas grave.
Ouais, et puis t'apprends quelque chose au passage, de toute façon.
Donc, voilà, exactement. Ouais. On en ressort plus riche.
Absolument. Et toi, Virginie ?
Eh ben, comme le disait si justement Johanna, l'adaptation est cette capacité qui est pour moi, comme Rebecca, assez naturelle, est indispensable à la réussite de sa vie d'entrepreneur parce que le parcours, que ce soit dans la vie, tous les jours ou en tant qu'entrepreneur, est semé d'imprévus, d'embûches, de changements de situation ou autre. Et cette capacité à rebondir face à toutes ces situations, à toutes ces imprévus, nous permet d'avancer et nous permet justement de nous rapprocher du but qu'on s'est fixé en tant qu'entrepreneur. Pour moi, c'est accepter de devoir changer de direction, de changer de cap. C'est développer son agilité et être capable de se réinventer. Donc c'est vraiment pour moi indispensable de développer, de s'appuyer sur cette capacité qui est en somme toute quelque part assez naturelle chez l'homme.
Je vais reprendre un petit peu des éléments que vous évoquiez à l'instant, mais notamment sortir de sa zone de confort, parce que s'adapter c'est parfois se faire violence, même violemment violence, on va dire ça comme ça, pour trouver un peu de nouvelles opportunités, voilà, oser tester des idées et puis tout simplement grandir un petit peu dans son marché. Est-ce que vous avez des exemples de telles situations dans votre aventure entrepreneuriale où voilà, vous êtes en fait sorti de votre zone de confort et ça a été peut-être un peu challengeant?
Eh bien, si je peux répondre à la question, oui.
On se doute.
Être entrepreneur, c'est déjà sortir de sa zone de confort en soi, parce que du coup, tout dépend de vous, de vos décisions et de ce que vous pouvez faire pour justement garder le cap et s'en sortir. Un exemple pour moi qui est vraiment hyper flagrant de la sortie de sa zone de confort, c'est d'être là aujourd'hui, de faire ce podcast. D'intervenir la semaine prochaine lors de la semaine de l'entrepreneuriat, car habituellement par mon métier j'ai plutôt l'habitude d'être derrière la scène à justement soutenir, aider, orchestrer. C'est ça, j'aime beaucoup cette notion, l'événement, soutenir l'intervenant et d'être cette fois sur la scène
dans la
plutôt derrière les coulisses. C'est vraiment une grosse sortie de zone de confort, hein. Mais en même temps, si on reste bien confortablement assise dans son canapé, on va nulle part, même si c'est hyper confortable. Donc il faut y aller, il faut oser. Et en gros, s'il y a une opportunité, il ne faut pas réfléchir sans 7 ans. Il faut y aller, il faut foncer. Ce que j'ai fait en acceptant ce challenge. Donc merci les filles de m'avoir entraînée là-dedans. En tout cas, il n'y a pas de mauvais choix. De nos erreurs, on en fera tous et c'est normal. Si tu n'en fais pas, c'est que tu n'as rien fait. Et du coup, ces erreurs vont te faire grandir et au final, quoi que tu décides, en y allant, en te trompant ou en réussissant, c'est gagnant-gagnant.
Je rebondis sur ce que disait Virginie, je me sens un tout petit peu responsable de l'avoir poussée. C'est vrai que moi, j'ai une façon de faire qui est peut-être un petit peu brusque, mais quand j'ai une opportunité, je la saisis. On me dit, il y a un talk sur entrepreneuriat, semaine de...
Tu fonces.
J'y vais, je ne sais même pas de quoi on va me parler. Du coup, je revois ma candidature. Après, on me dit qu'en fait, c'est pas toute seule, on est trois, etc. Et donc, du coup, après, j'essaye de trouver des gens et puis en fait, d'utiliser mon énergie pour porter les gens avec moi aussi. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque un petit peu dans l'entrepreneuriat, ce côté gestion d'équipe où en fait, t'es pas tout seul, t'es à plusieurs. Alors, j'accompagne des clients, donc j'ai quand même ce contact et puis le fait d'aider les gens à réaliser le potentiel de leurs idées, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais c'est vrai que là, c'est un super exemple de voir qu'aujourd'hui, avant l'enregistrement, Virginie qui me dit « En fait, c'est quoi je suis hyper contente d'être là et tout, c'est hyper cool. » Pour revenir du coup à... Dans le cadre du marketing de Malipa FNB Solutions, j'ai lancé une chaîne de podcast sur YouTube, d'interviews vidéo, pardon, pas de podcast, où en fait, je rentre en contact avec des entrepreneurs, alors principalement de la restauration ou de l'hôtellerie. Ça a commencé avec un ami qui était à Shanghai et qui me partageait la réouverture de son resto après leur premier confinement. Et je me suis dit que ça pourrait être hyper intéressant de partager ça avec la communauté en Europe. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à interviewer des gens que je ne connaissais pas. Et c'est là où ça a devenu intéressant. C'est qu'un jour, j'ai contacté des gens sur LinkedIn. Et j'aurais juste écrit. Et j'ai été hyper surprise de voir à quel point le retour était hyper positif. Mmh. Et avec Johanna, on fait partie du collectif de Genève, des Genuine Women. Et on s'occupe des relations publiques. Et Johanna a directement contacté des personnes assez haut placées finalement dans la presse et on se rend compte qu'on a des retours. Et je pense qu'avec le confinement, aujourd'hui, les gens se retrouvent un peu chez eux, ont plus de temps à disposition et tout le monde aime parler de lui, de ce qu'il fait et de créer vraiment cette communauté un peu bienveillante pour faire avancer les choses. Et on se rend compte que si on n'essaye pas, bah, en fait, on n'arrive à rien. Et inversement, je pense qu'il faut dédramatiser l'échec. Au pire, il se passe quoi ? Au pire, le gars ne te répond pas. Au pire, il te dit « je ne suis pas intéressé ». Et en fait, une fois que tu as compris ça, je pense que t'y vas et tu te rends compte qu'au contraire, dès que tu lances quelque chose, c'est les dominos, t'as 10 choses après qui se passent. Et ouais, c'est vraiment le conseil numéro 1 de tenter, il faut y aller quoi.
Ouais, et puis de pas avoir peur du non, effectivement, et de l'échec, et puis encore la notion d'échec est toute subjective, mais tout du moins du non, ouais, effectivement.
C'est un peu le principe finalement de qui ne tente rien n'a rien.
Mm-hmm. Ouais, pour moi en fait, la sortie de ma zone de confort, la première, je veux dire, c'est juste d'être entrepreneur.
Parce que déjà, on oublie souvent, mais oui, absolument.
C'était, ouais, comme je disais, c'était vraiment pas prévu au programme. Et à la base, j'ai vraiment mis du temps à me lancer. Et d'ailleurs, faire partie des genuines, ça a fait partie du fait que j'ai réussi aussi à le faire. Parce que quand je suis entrée chez les genuines il y a un an et demi, mon projet était au stade d'idée, il n'était pas à un stade très avancé. Et en fait, c'est avec aussi les genuines, les gens que j'ai rencontrés, les échanges que j'ai faits, qui on fait grandir ce projet et on a aussi beaucoup, et on parle beaucoup aussi entre nous, de la légitimité, de notre légitimité en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, en tant que... voilà, comment est-ce qu'on peut monter un business? Moi, je suis en train de monter une application dans le digital à la base. Je ne suis pas développeur, je n'ai pas 1 million ou 10 millions derrière moi, je n'ai pas d'investisseur. Je fais ça un peu toute seule et Si, j'ai des jumeaux de 3 ans. Donc, à la base, si je présente le projet comme ça, n'importe qui me dirait « Non, mais t'es complètement malade, en fait. » Et puis, c'est ce que je me suis dit au début, mais après, en fait, comme disait Rebecca, voilà, une chose après l'autre, on essaye, on teste, on y va, ça marche, ça marche pas. Tout d'un coup, on voit qu'il y a des choses qui marchent. Bon, ben, next, on avance. Et voilà, et c'est ça aussi la beauté du jeu. Et on se rend compte que c'est possible à la fin. Et surtout, il y a une énergie hein, quand on fait quelque chose pour soi qui est tellement différente que quand on est employé et que souvent, on nous met des bâtons dans les roues, même si on est créatif ou proactif. Et là, vraiment, c'est notre choix, notre décision. Si on se plante, c'est notre choix qui en fait qu'on s'est planté. Puis c'est pas grave. Comme on disait justement tout à l'heure, on apprend. À chaque fois, on a une compétence en plus. Ah, on a fait ça, on s'est planté. C'est pas grave, donc on va faire différemment, on ajuste. Et c'est hyper intéressant. Et non, moi, je suis hyper contente. Je voulais partager quelque chose au niveau de la légitimité et de sortir de sa zone de confort. C'est que moi, pour l'instant, j'ai toujours pas réussi à mettre sur LinkedIn que je suis fondatrice et de Balm Booking. Et voilà, c'est quelque chose que je vais faire, mais chaque jour,
ouais,
un petit peu.
C'est des petits steps, ouais.
C'est des petits steps, ouais. Mais typiquement, voilà. Et donc, c'est vrai que chaque jour, on sort de notre zone de confort tout le temps, en fait. Ouais.
Ce que tu dis, ça me fait penser à ce qu'on m'a dit il y a pas longtemps. Peut-être que je couperai ça au montage, mais j'ai une amie qui peint et puis elle me dit j'ai beaucoup de mal à dire que je suis artiste parce que j'ai l'impression que c'est cucu quoi. Enfin, et je disais bah moi j'ose pas dire aux gens que je suis entrepreneur parce que c'est un peu voilà, ça veut un peu tout et rien dire.
Exact.
Puis quelqu'un d'autre me disait mais en fait quelqu'un qui court c'est un sportif, quelqu'un qui, enfin voilà, alors pourquoi tu serais pas entrepreneur? En fait, du moment que tu fais l'action de ce que t'es, bah tu l'es forcément. Et je trouve que ça répond un peu à la question de légitimité aussi quoi.
Complètement, ouais.
Je
suis d'accord,
c'est très sensé à ce que tu dis.
Ouais.
Ah,
mais
je
comprends
pas
totalement
les yeux.
Ouais, moi je le laisserai aussi.
Ouais.
Mais un autre truc aussi dont on avait discuté, c'est que dans l'entrepreneuriat, ce qu'on recherche, c'est pas forcément de devenir milliardaire, c'est pas forcément de réussir, d'avoir 10 milliards de clients. En fait, en tout cas pour moi et puis je crois pour nous trois, l'important c'est le voyage, quoi, c'est l'aventure.
Processus,
et en fait, c'est là aussi, j'essaie de dédramatiser entre guillemets l'échec. C'est que même si Malipa FMB Solutions, bah, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ça va s'arrêter. En fait, l'aventure m'a permis de rencontrer tellement de gens, de développer tellement de compétences, mais qu'ils soient soft skills ou bien même des techniques beaucoup plus complexes. Enfin, pour réaliser des vidéos, j'avais jamais enregistré quoi que ce soit. Et en fait, en sortant de sa zone de confort et en essayant, on apprend des choses. Donc, le pire qui puisse nous arriver à nous toutes entrepreneurs, c'est que notre boîte fonctionne pas, mais on aura multiplié par 2 milliards nos opportunités, en fait.
Oui, absolument. Puis je pense, bah, comme on disait avant, c'est important de prendre le premier pas, parce qu'effectivement, bah, ton premier livre, ton premier podcast sera mauvais, j'en atteste, le mien était nul. Mais après, bah, tu t'améliores, tu fais des petites itérations d'amélioration, et puis bah, le 10e sera peut-être bon, et puis le 20e sera très bon. Enfin, si tu commences jamais, t'arriveras nulle part. Donc, ouais. Je vais rebondir par rapport à ce que vous disiez toutes, par rapport à l'échec. On parlait de s'adapter pour rebondir. Tu parlais très justement, Rebecca, de dédramatiser l'échec un petit peu, et puis bah, voilà, de pas s'arrêter là puis de repartir de plus belle. Est-ce que voilà, comment est-ce qu'on fait concrètement pour dédramatiser l'échec? Comment est-ce que vous avez fait vous?
J'ai quelque chose de très simple qui est enfin dans le discours c'est ultra simple, dans les faits c'est beaucoup plus complexe que ça, mais je dirais que face à une difficulté ou un échec ou juste un changement de cap qu'on peut très mal vivre, c'est respirer un bon coup. Et puis, fais le deuil complètement ou partiellement de la chose, du projet ou du service que tu voulais proposer et avance. Ne te morfonds pas dans ton coin, reste pas seul. Va à la rencontre d'autres personnes. Enfin, le réseau de Genuine pour ça peut justement t'aider vachement à dédramatiser, à rebondir, à y aller de l'avant. Mais dans tous les cas, finalement, qu'est-ce qu'un échec? C'est un échec si tu restes sur place, si tu tombes et que tu te relèves pas. Mais quand on était gamin, quand on a appris à marcher, mais combien de fois avant d'aligner deux pas sans se manger un coin de meuble ou tomber sur ses genoux, combien de fois on est tombé avant de marcher parfaitement sur nos deux jambes? On s'en souvient pas. D'ailleurs, nos genoux sont de couleur naturelle chair, ils sont pas restés bleus parce que tu es tombé 50 fois avant de marcher une bonne fois. Donc, l'entrepreneuriat, c'est la même chose. C'est tombe 7 fois, mais relève-toi 8. Et il n'y a que comme ça que tu peux avancer. Et puis finalement, ben, si tu pars avec ce genre de principe et que tu prends du recul, ben, rien n'est grave. Tu ne joues pas ta vie en tant qu'entrepreneur. Sauf si tu es chirurgien, mais ça, c'est autre chose. Et c'est même pas la tienne que tu as.
Moi, je dirais que ça dépend, pour moi, ça dépend un peu de l'échec, du type d'échec. Je pense qu'il y en a plusieurs. Il y en a certains qui sont... Enfin, c'est comme tu disais, quand on tombe, je pense, des fois, c'est soit tu tombes juste de pas très haut, puis il y en a certaines, tu tombes un peu d'une chaise, quand même, ou un peu plus haut. Donc, ceux-là, ils sont peut-être un petit peu plus longs. Mais pour moi, il y a certains échecs qui sont très simples, parce que ça me remet dans une bonne direction, et tout d'un coup, je vois tout de suite l'opportunité que ça amène derrière, en me disant, ah ben ouais, en fait, heureusement que ça s'est pas passé, ça me remet dans une bonne direction, et là, je suis vraiment contente. Après, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus douloureux, que je n'avais pas vu venir et que je n'avais pas anticipé. Et du coup, souvent, je m'en veux un peu. Mais du coup, ce que je fais, c'est aussi, comme disait Virginie, j'en parle. En fait, j'en discute, j'en parle avec mon compagnon, j'en parle avec mes amis, j'en parle avec le réseau. Et j'essaie d'échanger en comprenant, en fait, en essayant de vraiment me remettre en question, en essayant de comprendre pourquoi je n'ai pas été dans la bonne direction à ce moment-là. Et puis voilà, après ça va pas être immédiat, ça va peut-être prendre une ou deux semaines ou comme ça, mais à la fin on y arrive toujours. Et puis c'est vrai que aussi pour citer certaines phrases qui nous font avancer, moi il y en a une qui m'a beaucoup marquée, je sais plus malheureusement qu'est-ce qu'il a dit, mais enfin il y en a une qui m'a énormément marquée, c'est vraiment tous les entrepreneurs qui sont arrivés, c'est ceux qui n'ont pas lâché. Donc en fait, à chaque fois, je me remets cette petite phrase et je me dis, en fait, il ne faut pas que tu lâches parce que c'est la seule façon d'y arriver. Donc c'est un espèce de petit leitmotiv, ouais, de petite phrase comme ça que je me répète et qui me fait avancer.
Ouais, moi je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est quand on se plante, il faut accepter qu'on s'est planté et faire, entre guillemets, le deuil, je rebondis sur cette image, mais vraiment accepter que ça s'est passé et puis le process. Et prendre le temps, et accepter qu'on prend du temps. Et là, ce qu'on vit aujourd'hui avec le confinement, etc., c'est des trucs qui sont extrêmement intenses, et ça peut paraître parfois un petit peu... En tant qu'entrepreneur, moi, typiquement, il y a des jours où j'arrive pas, quoi. J'ai besoin d'être chez moi, sous ma couette, à regarder un film. Et en fait, le jour où j'ai décidé d'accepter qu'il y avait des jours où ce serait comme ça, et puis d'autres jours où ça serait beaucoup plus efficace, du coup, on lâche un peu prise, et puis c'est plus facile. Et l'autre côté de la médaille, c'est que... au même titre que parfois on se focus sur les échecs, et ben moi maintenant j'essaie de me focus sur les petites victoires. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand je fais un rendez-vous avec des gens, moi je rencontre 10 personnes, sur les 10 personnes, il y en a peut-être une avec qui je vais bosser dans 6 mois. Et encore, c'est même pas sûr. Et donc, au lieu d'attendre de signer le premier contrat, en fait, je vais me réjouir d'un café qui s'est hyper bien passé, d'une discussion intéressante, d'un coup de fil où on m'a dit « Ah bah pourquoi pas ?» En fait, je vais prendre le temps, au même titre que je prends le temps de faire le deuil, de célébrer une petite victoire. Et ça, déjà, c'est quelque chose d'hyper cool. Et par ailleurs, c'est vrai que le réseau des Genuine Women en particulier nous permet vraiment, en fait, de s'entraider dans la bienveillance. Que ce soit bien clair, Genuine Women, c'est pas un truc de copines qui boivent du thé. C'est un réseau entrepreneur, professionnel, c'est un peu tes collègues qui sont pas vraiment tes collègues, en fait. Mmh. Et du coup, moi, ça m'arrive souvent pour faire un pricing, un devis, etc. J'ai un doute, bah tac, je prends mon téléphone et puis on va se poser des questions, on s'entraîne un petit peu là-dedans. Et le fait de comprendre qu'on vit tous les mêmes problématiques, c'est vachement rassurant et donc du coup, on a un peu moins peur.
Ouais, complètement. Pour l'autre, pendant un petit peu de cette discussion, et ça revient à ce que tu disais au début, Johanna, je voulais parler de flexibilité par rapport à un marché qui évolue, à ton marché, à ton secteur. Peut-être un nouvel entrant dans ta catégorie de business qui va potentiellement être un concurrent, je sais pas, une situation non envisagée comme le Covid. Donc si je prends cet exemple-là qui est évidemment totalement d'actualité, comment est-ce que ça vous a impacté, déjà à titre personnel, sur vos projets, et puis comment est-ce que vous avez réagi?
Bah alors moi, en fait, c'est vrai qu'en fait, la situation actuelle, ça m'a impactée, mais plutôt du bon côté, parce que je suis en train de monter une solution digitale qui n'existe pas aujourd'hui à Genève. Donc, quand j'ai commencé à faire ma première étude de marché auprès des prestataires, ils étaient plutôt réfractaires, en fait, à se digitaliser. Et en fait, c'est vrai qu'avec la situation actuelle, tout le monde est obligé de se digitaliser. Du coup, pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Donc, à ce niveau-là, c'était plutôt une bonne chose.
T'as pas du tout réinventé.
J'ai plus surfé sur la vague. J'ai pas dû me réinventer. Donc ça, c'est vrai que pour moi, ben, c'était très bien.
Contrairement à Johanna, au départ, la situation de confinement, de Covid, ça a été un petit peu le désastre pour moi parce que, étant organisatrice d'événements, un petit peu compliqué d'organiser des événements professionnels. Alors, depuis son salon, c'est possible, mais sans les participants. Et du coup, là, ça manque un petit quelque chose quand même, faut dire ce qui est. Donc ça m'a forcée à réfléchir autrement, à me réinventer. J'avais deux choix en fait face à cette situation. C'était soit de me morfondre, de pleurer toutes les larmes de mon corps en disant « Ah, monsieur Covid » ou « Madame » parce qu'a priori c'est une fille, « Tu viens de me plomber mon business alors que je viens de me lancer ». L'année s'est annoncée super belle avec des super projets, des voyages au Cap-Vert. Enfin, c'est quand même vachement mieux que d'aller découvrir mon jardin, même si mon jardin est très sympa. Et du coup, j'ai pris le parti de dire « Ok, cette situation est temporaire. J'accepte. » Je dis pas que c'est facile. « J'accepte, je fais mon deuil. Cette année, l'événementiel, eh ben, j'en aurai peu, voire pas. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Comment je peux rebondir et qu'est-ce que je peux mettre en place ?» Et c'est par rapport à d'autres projets, parce que j'ai un autre projet en parallèle dont j'ai pas encore parlé et que je garde un petit peu pour moi pour l'instant, qui m'a amené vers justement ces chineries, cette déco. Et finalement, j'ai envie de dire, ben, Madame Covid, parce que tant qu'à faire, vu que t'es une fille, autant que je te remercie. Ok, ça nous complique un peu la vie à l'heure actuelle, mais j'ai décidé de transformer ce désastre annoncé en force, en quelque chose de positif. Et du coup, ben, la branche déco est née de ce constat. Sans cette situation, je sais pas si cette branche serait née, en tout cas pas dans mon entreprise aujourd'hui, quoi. Donc
ça t'a amené un pivot qui au final était positif.
Exactement, c'est ça, c'est transforme chaque embûche en force et relève les, enfin saisit l'opportunité. Finalement, ça a été une opportunité parce que je travaille essentiellement via les réseaux sociaux et autres applications, donc c'est ultra digital. Et on garde quand même une notion de contact humain parce qu'il y a quand même des échanges avec les acheteurs où justement, ben, quand j'ai livré, je leur montre, on en discute, je raconte un peu l'histoire de l'objet quand je l'ai. Et du coup, ça crée quelque chose de différent.
Et toi, Rebecca ?
Moi, de mon côté, ça ne m'a pas trop touchée professionnellement parlant, dans le sens où les projets sur lesquels je travaille, c'est des concepts qui sont encore au stade de projet. Donc, on n'a pas de boutique, etc. Donc, ça a pu continuer. J'ai eu beaucoup de chance. En revanche, moi, personnellement, c'est vrai que J'ai pris le temps, je me suis dit que c'était l'occasion en fait de se former. J'ai fait une formation de vente en ligne, justement pour vendre ce logiciel. Je me suis dit que j'avais essayé plus ou moins de bricoler avec les cartes que j'avais en main. Je me suis dit que j'avais pas suffisamment d'infos et donc du coup je me suis inscrite et j'ai investi. L'investissement d'ailleurs, on en avait déjà parlé, en tant qu'entrepreneur c'est extrêmement compliqué parce que quand tu en vis, ce qui est mon cas, chaque dépense en fait c'est quelque chose qui sort de ton quotidien en fin de compte. Mais je me suis dit que c'était l'occasion, ce Covid, de se préparer à l'avenir, en fait. Un peu comme si on était en hibernation obligatoire. Mais je pense que la différence va se jouer dans les débuts 2021, printemps 2021, quand la situation va redémarrer, parce que ça va redémarrer. La question, c'est quand. La différence entre les entreprises qui vont réussir et celles qui vont malheureusement, dont le Covid aura eu la peau, c'est justement les entrepreneurs ou les équipes qui auront fait le travail de fond pour se créer une identité. Tu parlais, Virginie, des réseaux sociaux. Ben voilà, qui es-tu sur les réseaux sociaux? Est-ce que quand je te cherche, je te trouve? Aujourd'hui, personne ne te cherche, mais assure-toi que quand on te cherchera, on te trouvera et que tu pourras dire ce que tu as vraiment envie de dire. Donc, se former, prendre le temps de faire le travail de fond, de réfléchir à qui on est vraiment et qu'est-ce qu'on veut proposer à nos clients.
Super, merci beaucoup. Et vu qu'on arrive à la fin de l'épisode, est-ce qu'il y a encore des conseils ou voilà, je sais pas, des apprentissages que vous avez envie de partager par rapport à cette notion d'adaptabilité et d'être un caméléon en tant qu'entrepreneur ?
Moi, j'ai envie de dire qu'en tant qu'entrepreneur, on est face à des décisions en permanence. Enfin, on prend 50 décisions différentes par jour sur des thèmes complètement différents qui sont à la base pas forcément dans nos compétences parce que du coup, on est comptable, on est DIRCOM, on est chef marketing, on est PDG. Enfin, ça fait classe ça quand même, quand on est tout seul dans une entreprise. On doit animer nos réseaux sociaux, aller rencontrer des investisseurs, des clients. Enfin, on a 36 casquettes. On doit jouer dans des exercices qui ne sont pas les nôtres à la base, qui ne sont pas naturels. Et j'ai envie de te dire, fais-toi confiance. Si tu as décidé d'être entrepreneur, c'est quelque part, il y avait quelque chose dans ce monde-là, dans cette façon de vivre qui t'attirait et qui était compatible avec tes valeurs. Donc fais-toi confiance, vas-y, ose, va de l'avant. Et il n'y a qu'en faisant que tu sauras si c'était une bonne idée.
Si je peux utiliser ce que tu as dit et aller plus loin, entoure-toi des bonnes personnes. Et le réseau de Genuine Women, c'est aussi l'occasion. Bah voilà, t'es DIRCOM, mais en fait, t'as des limites dans tes capacités de communication. Et donc, du coup, dans le réseau en particulier, alors tu peux regarder sur Internet quelqu'un d'autre qui le ferait, mais autant faire travailler plus ou moins la communauté dans laquelle tu fais partie. Il y a plein de nanas qui sont meilleures que nous dans ces domaines-là. Et c'est hyper intéressant de connaître un petit peu parce qu'il faut briefer la personne qui va faire le boulot pour toi sur ce que tu veux, mais d'aussi faire confiance et puis de déléguer et de se rendre compte qu'en fait,
quand tu as d'autres personnes qui mettent leur petite pierre à ton édifice, bah mine de rien, l'édifice, il monte, il s'élève. Et du coup, ça, c'est un des grands trucs du réseau aussi, c'est que ça nous aide, en fait, à développer toutes nos casquettes.
Ouais. Bon, en fait, être entrepreneur ne veut pas dire que tu es tout seul. Donc, faire partie d'un réseau d'entrepreneurs, ben, ça veut dire aussi être entouré de personnes qui comprennent tes problématiques, qui ont des compétences qui sont complémentaires aux tiennes. Donc, juste autour d'un verre, on peut discuter de comment faire tel poste sur un réseau social. Parce que, ben, à la base, toi, t'es plutôt manuel et que les réseaux sociaux, c'est un truc d'un autre monde. C'est vraiment savoir s'entourer, savoir discuter, s'ouvrir, communiquer à d'autres. Et c'est vrai que faire partie d'un réseau d'entrepreneurs, c'est aller vers des gens qui te comprennent, qui t'écoutent et qui te soutiennent. Donc, autant y aller. Et autant, comme le disait Rebecca, entoure-toi, quoi. Être entrepreneur, c'est pas être seul.
Ouais, je suis complètement d'accord avec vous. Et surtout, avec dans le réseau, de trouver justement des personnes qui aiment faire des choses, qui ont des talents, en fait, que nous, on n'a pas. Et je trouve que ça, c'est vraiment super de pouvoir, en fait, déléguer certaines choses. Typiquement, moi, je suis assez nulle, hein, et je le reconnais complètement en tout ce qui est rédaction, créativité rédactionnelle, etc. J'aime pas faire ça. En plus, j'ai aucune compétence là-dedans. Puis, je suis hyper heureuse de pouvoir le déléguer à quelqu'un qui a une passion pour ça et qui sait le faire très, très bien. Et en fait, moi, ce serait quelque chose qui me prendrait des jours et des heures et où je serais vraiment démotivée, alors qu'en fait, quelqu'un d'autre, c'est son dada, c'est ce qu'elle aime faire, ce qu'il aime faire. Et du coup, il va avoir énormément de plaisir à rendre un texte hyper sympa et vraiment de qualité, en fait. Et du coup, comme tu disais, cette complémentarité entre les personnes dans le réseau, c'est ultra intéressant. Et ça, moi en tout cas, je l'utilise beaucoup, énormément, dans tout mon projet. Je suis beaucoup à utiliser et à demander aux gens de m'aider. Et le deuxième truc aussi, c'était ce que vous disiez sur la formation. Moi, je trouve que c'est ultra important. Et c'est ce que je me suis dit aussi dans ma vie d'entrepreneur. Et ce que tu dis d'oser, c'est complètement juste. Hein, parce qu'au final, même si ça prend une année ou deux ans, ce ne sera pas une année ou deux ans de perdu. Parce que moi, ce que j'ai appris en deux ans, le nombre de formations que j'ai faites hein, et qui ne sont pas forcément payantes, il y a plein de formations qui sont gratuites. Donc, il faut aussi démystifier le fait que ça va coûter très cher. Il y a énormément de formations gratuites. Avec le réseau, on nous aide sur plein de choses. Il y a plein d'événements qui permettent de se former, qui sont gratuits, notamment dans le réseau Genuine pour les membres du réseau. Tous les mois, il y a en tout cas trois événements récurrents entre le breakfast, le lunch et le rescue drink, qui sont des moments en fait, où on va se retrouver entre Genuine. On va pouvoir réseauter, parler de nos business, parler de nos problématiques. Ce qu'on essaye de faire en tant que membre du collectif, c'est d'amener des thèmes à ces lunchs et à ces breakfasts ou rescue drinks. Typiquement, comment utiliser des nouveaux outils. Moi, aujourd'hui, je suis en train de me former sur les CRM. Je suis en train de penser à faire une thématique CRM lors d'un lunch ou d'un breakfast. Et on a d'autres genuines du collectif qui vont aussi présenter des outils avec lesquels elles travaillent et avec lesquels elles ont du plaisir à travailler. Et du coup, qui vont nous aider aussi dans nos business ou pas. Mais en tout cas, à chaque fois, on pourra aller à ces formations. Il y a aussi des talks, il y a aussi des masterminds où les genuines peuvent poser les questions qu'elles ont, les problématiques sur leur business. Et il y a d'autres genuines ou non genuines, d'ailleurs, qui peuvent faire partie de ces masterminds pour essayer de trouver des solutions. Et voilà, il y a encore les talks, comme on va faire donc à la semaine de l'entrepreneuriat qui est sur l'art de s'adapter. Il y en a d'autres qui sont aussi en lice. Et puis, évidemment que le collectif, en fait, nous, on est là pour répondre aux demandes des genuines. Donc, on n'arrête pas de le dire à chaque fois. Si vous avez des idées, si vous avez des questions sur quelque chose, vous voulez qu'on parle d'un thème particulier, en fait, on est là pour pouvoir les mettre en vie, les organiser. En fait, c'est aussi notre travail. Et le nombre de compétences qu'on acquiert, c'est un truc hallucinant. Et moi, aujourd'hui, clairement, après deux ans d'entrepreneuriat, de ce voyage entrepreneurial, je suis clairement quelqu'un de différent. Et je pense que si, par hasard, je devais un jour de nouveau être employée, clairement, je repartirais pas de l'endroit où j'ai quitté. Je serais clairement un autre niveau, en tout cas.
Et juste, pardon, si je peux revenir sur un truc, il ne faut pas oublier qu'à Genève, il y a énormément de structures qui sont là pour aider les entrepreneurs. Mine de rien, pour l'instant, on est tout seul, mais l'idée, c'est de créer des structures et d'employer des gens. Et puis, l'entrepreneuriat, c'est aussi une façon de créer de l'emploi. Et si t'as pas de métier qui te plaise, ce qui est mon cas aujourd'hui, ben en fait je suis en train de me l'inventer. Et peut-être qu'il y a d'autres gens qui veulent aller aussi dans cette direction. Donc je pense qu'il faut pas hésiter, notamment la Fondetech, qui est un organisme de financement de projets avec lequel moi je suis en train de travailler. Voilà, c'est des choses qui... Il n'y a pas que des freins, il y a des solutions en fait. La question c'est pas, je peux pas être entrepreneur, la question c'est, qu'est-ce qui te manque pour te lancer en entrepreneuriat ?
Bien, merci beaucoup, je crois qu'on va conclure là-dessus.
On arrive ainsi à la fin de l'épisode. J'espère que cet entretien vous a plu et aura été source d'inspiration. Vous pouvez retrouver Genuine Woman sur le site genuinewoman.ch ainsi que sur Facebook et Instagram. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.